Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlerons des liens entre urbanisme et rationalité. Et pour cela, je vous propose un parcours en trois temps. D'abord, l'origine du terme urbanisme. Ensuite, le pré-urbanisme progressiste. Et enfin, le mouvement moderne ou le mouvement de l'architecture moderne. Donc, deux mots pour commencer sur l'aménagement urbain et l'urbanisme. On trouve à des époques reculées certaines formes de planification urbaine, par exemple sous l'Empire romain ou dans les empires coloniaux européens. Mais il est d'usage de distinguer clairement ce qui se passe avant la transition urbaine du XIXe siècle en Europe et ce qui se passe pendant et après la transition urbaine. Et donc, dans le cadre de cette séquence, nous parlerons d'urbanisme à partir du XIXe siècle. Alors, Françoise Chauet, dans son anthologie des écrits d'urbanistes, a distingué une catégorie qu'elle a appelée le pré-urbanisme progressiste, dans lequel se trouvent ces auteurs-là, donc qui sont en général connus pour le nom de leur réalisation, Robert Owen avec New Harmony, Charles Fourier avec le Phalanstère, Considérant, qui poursuit l'œuvre de Fourier et écrit sur le Phalanstère, Étienne Cabet avec Icarie, et Richardson avec IGEA. Ces projets, donc voici ici l'exemple du phalanstère de Fourier, du dessin du phalanstère, certains ont été réalisés et par exemple, il existe encore aujourd'hui une colonie dans les Yvelines réalisée sur le modèle du phalanstère de Fourier. Donc je vais maintenant mettre en avant certains points communs partagés par tous ces pré-urbanistes progressistes, points communs qui sont importants pour la suite parce qu'on les retrouvera dans le mouvement de l'architecture moderne. Alors le premier point à mettre en avant, partagé par tous ces auteurs, c'est le constat du chaos et du manque d'hygiène de la ville existante. Considérant écrit par exemple « Les grandes villes, Paris surtout, sont de tristes spectacles à voir pour quiconque a l'idée de l'ordre et de l'harmonie. » Et donc ça, c'est un constat qu'on trouvera chez tous ces auteurs. Le second point, c'est le fait que ces auteurs proposent à la fois une utopie urbaine et une certaine organisation sociale. Donc la proposition urbaine et la proposition sociale se confondent. Considérant écrit par exemple « L'anarchie sociale que traduit en relief avec une hideuse fidélité cet amas informe de bâtiments ». Et donc dans cette phrase, il fait très clairement le lien entre une certaine morphologie urbaine et une certaine organisation sociale. Le troisième point commun chez tous ces auteurs, c'est le fonctionnalisme. Fourier écrit ici « Dans des zones spéciales de la ville se trouvent des blocs conçus pour le travail ». Alors, chez tous ces auteurs, on va trouver ce double principe, c'est-à-dire l'idée qu'on peut définir des fonctions dans l'organisation sociale et l'idée que ces fonctions vont se voir assigner des espaces dans la ville. Donc, définition de fonctions, puis zonage fonctionnel. Sur ce plan des cités-jardins de Howard, on voit très bien ce zonage fonctionnel. Donc, définition, par exemple, d'une fonction agricole et définition, dans l'espace de la ville, d'une zone dédiée aux usages, aux fonctions agricoles. Définition d'un usage résidentiel et définition d'une zone de cet espace urbain dédiée aux usages, aux fonctions résidentielles. Et donc, ce zonage fonctionnel est très important. On le retrouve chez tous ces auteurs et on le retrouvera plus tard dans le mouvement de l'architecture moderne. Point suivant, la ville ad hoc. Alors là, l'idée, c'est que le projet, l'utopie urbaine, existe indépendamment de la ville existante et qu'en général, il n'y a pas de transition entre l'existant et le projet qui est pensé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur ce plan de la ville des cités-jardins de Howard. Ici, j'ai encadré cette phrase, le plan ne peut pas être dessiné avant que le site ait été sélectionné. Et donc c'est bien cette idée que l'utopie urbaine est dessinée en dehors de toute ville existante. tous ces auteurs partagent aussi l'idée que la planification est toute puissante et que tout peut être planifié, y compris des choses comme la démographie, par exemple, qui sont en grande partie le fait de mécanismes spontanés. Et donc, on trouve, par exemple, chez Richardson, cette phrase « La population de la cité peut être évaluée à 100 000 personnes vivant dans 20 000 maisons construites sur 4 000 acres de terrain ». Donc ici, tout est défini, à la fois les populations, les nombres de logements et les surfaces. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire une planification complète et systématique de l'ensemble de la ville, sans prendre en compte le fait que les villes existent aussi, et peut-être surtout, à travers un grand nombre de mécanismes non planifiés. Alors, tout est planifiable, y compris les usages. Cabé écrit par exemple, au rez-de-chaussée, une salle à manger et une cuisine. Le premier étage renferme un salon. Les autres pièces sont des chambres à coucher. Donc ici, Cabé a entièrement prévu les usages et les lieux correspondant à ces usages, indépendamment de ce que le ménage ou la famille qui s'installerait dans ce logement voudrait faire de son propre logement. Et donc là encore, on trouvera ça chez tous ces auteurs, une planification systématique de la façon dont les gens s'approprieront ces espaces urbains. Point suivant, la ville est considérée comme un système fermé. C'est-à-dire que dans presque tous les cas, la planification urbaine touchera une ville sans prendre en compte l'ensemble du système de ville ou du système de peuplement. À l'exception de Cabé, qui lui, en fait, son utopie concerne un pays entier, Icarie, et donc là, oui, il y a des passages sur l'ensemble d'un système de peuplement. Et donc là, j'attire votre attention sur cette phrase. Le territoire est divisé en 100 petites provinces, subdivisées en 1000 communes, à peu près égales en étendue et en population. J'attire votre attention sur cette phrase parce que si vous avez suivi les séances antérieures, vous savez qu'aucun acteur, privé ou public, n'a le pouvoir de planifier à ce point la structure d'un système de peuplement. Donc, en général, cette planification systématique est largement impossible à mettre en place dans la réalité. Dernier point, on trouve des injonctions à la ligne droite et à l'angle droit. Et donc, il y a un lien direct avec le premier point qui était le constat du chaos des villes existantes. Les villes existantes sont chaotiques parce qu'elles ne sont pas droites. Et ici, la rationalité va passer par la mise en place de formes architecturales droites, de réseaux viaires droits avec des angles droits. Voilà. Et donc ça, encore une fois, c'est partagé par tous ces auteurs. Tous les points que je viens de mettre en avant, que je résume ici, on va les retrouver dans le mouvement moderne ou dans le mouvement de l'architecture moderne. Alors, ce qu'on appelle l'architecture moderne, on peut le circonscrire à cette période des congrès internationaux d'architecture moderne, c'est-à-dire des années 20 aux années 60. Le document fondateur de ce mouvement est la Charte d'Athènes, qui est le document issu du 4e congrès international d'architecture moderne. Et la tête de file de ce mouvement, c'est Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier. Donc ce qui suit sont des extraits d'écrits de Le Corbusier qui montrent à quel point l'architecture moderne a repris un certain nombre des principes du pré-urbanisme du 19e siècle. Par exemple, Le Corbusier écrit « Commencez l'apurement des grandes villes, car celles-ci sont aujourd'hui dans le plus effroyable chaos. » Ou bien « Les cafés, les lieux de repos, cette moisissure qui ronge les trottoirs. » Donc là, on retrouve ce constat du chaos de la ville existante et du manque d'organisation et d'hygiène. Le Corbusier écrit enfin « Définir les besoins humains. Ils sont peu nombreux, ils sont très identiques entre tous les hommes étant faits sur le même moule. Il définit aussi les quatre fonctions humaines, habiter, travailler, se cultiver, circuler. » Alors là, on retrouve ce qu'on a vu précédemment, l'idée que les humains ont un petit nombre de besoins qu'on peut facilement classer, et à ces besoins, on fera correspondre des fonctions qu'on va pouvoir répartir dans l'espace urbain. Et donc le zonage fonctionnel va être un des grands principes de l'architecture moderne. On trouve aussi cette même injonction à la ligne droite et à l'orthogonalité. Donc Le Corbusier écrit par exemple « La droite est saine, la courbe est ruineuse. La rue courbe est le chemin des ânes, la rue droite est le chemin des hommes. » Alors, après avoir fait le point sur tous ces principes, je vais vous montrer quelques projets et quelques réalisations de ce mouvement moderne. Alors, le premier qui est très connu, c'est le plan voisin de 1925, qui est resté à l'état de projet. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est le quartier du Marais à Paris, quartier qui symbolise parfaitement ce chaos constaté par Le Corbusier, donc un petit entrelac de ruelles qui ne sont ni droites ni orthogonales, quelque chose qui doit être mis en ordre. Donc ici, la mise en ordre se traduit par un réseau de grandes avenues orthogonales avec des grandes tours dans un semi régulier. L'un des exemples très connus des réalisations de l'architecture moderne, c'est la ville de Chandigarh, dont on voit ici le plan. Et donc là, encore une fois, j'attire votre attention sur l'orthogonalité du réseau vière et sur le zonage fonctionnel, qui correspond ici aux couleurs du plan. Donc les usages résidentiels en jaune, les usages industriels en violet, les usages commerciaux en rouge. Donc ici, chaque fonction est définie et chaque fonction occupe une certaine portion de la ville. En conclusion, comment peut-on définir la rationalité dans cette première période de l'aménagement urbain et de l'urbanisme? On pourra dire que ce qui est rationnel, c'est ce qui peut être planifié indépendamment de la ville existante et indépendamment des mécanismes spontanés qui fabriquent les villes et les systèmes de villes.